Le journal, c'est avec vous Mathieu Laurent, bonsoir.
Bonsoir Julie et bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, une foule immense qui à Prague demande au Premier ministre tchèque Andrej Babiš de démissionner. Une élection municipale à haut risque pour le président turc Recep Tayyip Erdogan, reportage à Istanbul. Les lumières d'un spécialiste de la Corne de l'Afrique, Gérard Prunier, après les assassinats du chef de l'état-major éthiopien et du président de l'état d'Amara. Enfin, un mois après les élections européennes, dans quel état sont les gauches françaises? Invité de ce journal, le journaliste et écrivain Denis Jambard. Quel qu'en soit le résultat, les élections municipales à Istanbul marqueront le règne de Recep Tayyip Erdogan. Son discours nationaliste, populiste, de nature à diviser la société chaque fois que possible, a, semblerait-il, montré ses limites, et Istanbul en serait le théâtre de cette ponctuation. Entretenir une politique conflictuelle, est-ce encore pertinent? Istanbul restera-t-elle dans le giron de l'AKP? Réponse ce soir, face à face une figure montante de l'opposition, Ekrem İmamoğlu, et un fidèle d'entre les fidèles du président, l'ancien Premier ministre Binali Yildirim. C'est un reportage à Istanbul d'Éric Biegala.
Palat sur la Corne d'Or, l'un des plus vieux quartiers d'Istanbul, ici dans le district de Fatih. On est au cœur de l'électorat traditionnaliste qui vote AK Parti, le parti du président Erdogan. Ici, les femmes sont voilées, les hommes portent volontiers la barbe. Et quand on demande à Burak ou à Yakup, la trentaine tous les deux, pour qui ils viennent de glisser leur bulletin dans l'urne, c'est bien le candidat du pouvoir, l'ancien Premier ministre et fidèle d'Erdogan, qui est cité. Que ce candidat, Binali Yildirim, n'ait aucun charisme, Nejmiye, la quarantaine n'en a cure. Pour elle, l'important, c'était de voter pour le parti présidentiel.
Nous avons décidé de continuer à soutenir le parti de l'AKP, car c'est le parti qui nous a le mieux servi ces dernières années, et nous voulons que ça continue. Erdogan est un très bon leader, une personne inoubliable pour le monde entier.
Lors du scrutin du 31 mars, le candidat de l'AKP était arrivé très nettement en tête à Balat avec plus de 73% des suffrages. Difficile d'ailleurs, ici, de trouver un électeur qui ne vote pas pour l'AKP. Arzu, par exemple, elle se repère de loin. Elle est l'une des seules mères de famille à ne pas porter le foulard.
Pour être honnête, j'ai déjà voté pour l'AKP, mais je l'ai beaucoup regretté.
Cette fois, Arzu a voté pour Ekrem İmamoğlu, le candidat de l'opposition, mais avec un espoir limité dans sa victoire.
S'il perd, ce sera terrible. J'espère que tout ira pour le mieux. Mais l'autre camp peut toujours frauder. Ils ont fait plonger le pays. J'espère que ça va changer, qu'on va gagner et qu'on pourra se réjouir comme si on avait gagné une guerre de libération.
Selon les enquêtes d'opinion, İmamoğlu fait clairement la course en tête. Mais même s'il devait gagner, ses partisans craignent un trucage de dernière minute du pouvoir, selon eux, prêt à tout pour empêcher qu'Istanbul ne tombe aux mains de l'opposition.
En Ukraine, une Gay Pride à Kiev, encadrée par d'imposants cordons de police. Des milliers de personnes ont ainsi défendu valeurs fondamentales et droits humains, sous les regards hostiles de militants d'extrême droite et d'organisations religieuses qui ont dénoncé, je cite, une idéologie véhiculant la destruction de la famille et l'absence d'enfants. Une nouvelle charge de Matteo Salvini contre l'Union européenne en instrumentalisant un drame de l'exil. Depuis le 3 juin dernier, les autorités italiennes refusent d'accueillir 42 réfugiés secourus en pleine mer par un navire battant pavillon néerlandais et affrété par une ONG allemande. Le commandant du navire a refusé de les reconduire en Libye et s'est alors dirigé vers les côtes italiennes. Le ministre italien de l'Intérieur, je cite, tient responsable de tout ce qui peut arriver à ces réfugiés, le gouvernement néerlandais et Bruxelles. Quand Téhéran met en garde contre, je cite, un haut gradé du régime, un conflit dans la région du Golfe qui pourrait se propager de manière incontrôlable et menacer la vie de soldats américains, fin de citation. Washington exhorte les pays de la région à désamorcer la tension. Ce sont les termes de Brian Hook, l'émissaire américain pour l'Iran. En Éthiopie, faut-il parler d'une tentative de coup d'État? Le chef d'état-major de l'armée et le président de la région Amara ont été tués hier. Le premier dans la capitale, à Addis Abeba, abattu par son garde du corps, et l'autre à plus de 500 km de là, dans la région de l'Amara. Comment caractériser, nommer ce qui s'est passé? Omar Waman a sollicité Gérard Prunier, ancien chercheur au CNRS, aujourd'hui consultant indépendant et spécialiste de la Corne de l'Afrique.
On pourrait dire que ce qui vient de se passer, qui n'est probablement pas d'ailleurs une tentative de coup d'État, mais une série de disputes entre des gens qui étaient des opposants au gouvernement, ça risque de remettre en cause les élections de 2020.
Comment expliquez-vous que le Premier ministre Abiy Ahmed, qui a enfilé son uniforme militaire, a annoncé cette tentative de coup d'État à la télévision ?
Ah bah, il faut bien qu'il donne une explication. Si on tue le chef d'état-major et le président d'une région importante, il faut bien dire que c'est pas simplement parce qu'ils ont fait un mauvais repas au dîner. Donc oui, il y a de la violence et c'est assez, à mon avis, inquiétant de voir qu'il met la responsabilité sur le dos d'un des patrons amaras de la sécurité. Or, les amaras, il y en a partout dans le pays. Et si on commence à dire qu'ils sont responsables d'une tentative de coup d'État, il peut y avoir des réactions populaires extrêmement brutales à leur égard.
Faut-il être inquiet pour l'Éthiopie ?
Oui, bien sûr. C'est un pays de grande taille, qui a un poids considérable sur le continent, un potentiel de déstabilisation considérable, dont on peut craindre que des voisins mal intentionnés, et on peut immédiatement penser à l'Arabie Saoudite, cherchent à tirer avantage. On le voit très bien avec ce qui s'est passé au Soudan. L'Arabie Saoudite tire toutes les ficelles du refus de la démocratie et du refus de la transition politique au Soudan. Et évidemment, la dictature structurelle que représente le régime saoudien souhaite voir ce genre de choses exister dans tous les pays de la région. L'ennemi de l'Arabie Saoudite, c'est la démocratie. Une Éthiopie qui n'a pas de tradition démocratique et qui pourrait en acquérir une à l'occasion des élections de 2020, ça peut être une tentation. Parfois, l'occasion fait le larron, comme on dit.
Gérard Prunier, spécialiste de la Corne de l'Afrique avec Omar Waman. Depuis le début du mois d'avril, Prague concentre les élans civiques d'un peuple qui cible népotisme, clientélisme et affairisme. De la nomination au poste de ministre de la Justice, de l'ancienne procureure générale, du premier cercle, du président Miloš Zeman, aux accusations de fraude aux subventions européennes qui salissent le premier ministre Andrej Babiš, la rue tchèque ne laisse rien passer. En témoigne le rassemblement que vous avez rejoint, Ludovic Piétenu, au parc Letna, parc mythique de Prague. Bonsoir Ludovic.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à toutes et tous.
Je sais que le réseau est de très très mauvaise qualité. D'un mot tout de même, affluence, diriez-vous, à la hauteur des espérances des organisateurs ?
Totalement Mathieu, à la hauteur des espérances des organisateurs. Plus de 300 000, 350 000 personnes peut-être sous un soleil de plomb, et ce qui explique aussi, là, vous imaginez bien, avec un tel rassemblement de foule, des difficultés pour venir jusqu'à vous ce soir. Les Tchèques, en tout cas, ont répondu présent. Ils sont bien plus nombreux que lors de la manifestation du 5 juin, où ils étaient 120 000 environ. Ils tendent démission.
Ludovic, pardonnez-moi, malheureusement, on va devoir interrompre cette liaison en vous remerciant bien sûr pour les efforts que vous avez fournis pour nous rejoindre. Vous étiez en direct de Prague et à proximité, sinon au sein de ce parc Letna, qui est un parc évidemment qui résonne avec les grandes heures de la révolution de velours en Tchéquie. Il est 18h08, vous écoutez le journal de France Culture. Et nos gauches à nous, que voit-elle venir ? Un mois après les européennes, les dirigeants du Parti Socialiste martèlent que ce scrutin ne fait pas matrice. Ceux d'Europe Écologie Les Verts qui les propulsent jusqu'au présidentiel quand les cadres de la France Insoumise ambitionnent de rester un mouvement et en mouvement. Pour commenter ces réconfigurations, et objectifs des gauches françaises, nous sommes en ligne avec le journaliste et écrivain Denis Jambard. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Est-ce que vous voyez dans ces trois formations d'abord un parti de gouvernement, un futur parti de gouvernement ?
C'est difficile aujourd'hui de dire ce que va devenir la gauche. Simplement, je voudrais quand même faire un constat. Si vous prenez le total des gauches à l'élection européenne, vous constatez, hors lutte ouvrière, extrême gauche, affichée, vous constatez, en comptant aussi naturellement les écologistes, qu'elles font que la gauche fait 31%. C'est-à-dire que c'est d'une certaine manière potentiellement la force électorale la plus puissante en France, loin devant le Rassemblement national et loin devant la République en marche et très loin devant la droite dite de gouvernement, la droite classique. Et si vous comparez avec les seules élections comparables au fond avec ces élections européennes, ce sont les élections législatives de 2017, parce que la République en marche existait à ce moment-là, et que vous avez une participation de 50% qui est comparable à celle du scrutin européen. Vous vous rendez compte aussi que toutes ces, ces partis, mini-formations politiques, eh bien, faisaient 29% à ce moment-là. Donc, il y a potentiellement un électorat de droite qui représente près d'un tiers de l'électorat français. Simplement, il souffre de l'éclatement des formations et de l'impossibilité actuelle de ces troupes à trouver un discours commun, un projet commun et à se rassembler, alors que la plupart ont travaillé ensemble dans le passé.
Alors, discours commun, projet commun, ma première question était mal évavurée, évidemment, c'était un peu provocateur, mais parlons des valeurs, des carburants des uns et des valeurs des autres. Est-ce qu'il peut y avoir une mise en partage, ou alors est-ce qu'il faut revenir de nouveau à un homme de gouvernement qui va devoir se singulariser et singulariser avec lui sa formation parmi ses gauches?
C'est un discours assez classique des représentants de la gauche, c'est que d'abord il faut qu'ils élaborent une nouvelle philosophie politique, un nouveau projet. Il est évident que le discours idéologique de la gauche est à bout de souffle et qu'il lui faut aujourd'hui réinventer un projet. Ce travail-là me semble pas tout à fait accompli et je ne vois pas leur capacité à se rassembler dans ce que nous venons de vivre ces derniers jours ou ces dernières heures. Quand vous voyez que l'écologie tire, que M. Jadot tire comme conclusion de l'élection européenne qui sera le futur président de la République en 2022, on a envie de lui dire « revenez sur terre ». Les élections européennes ont toujours été profitables, par exemple, aux écologistes. Rappelons-nous que Daniel Cohn-Bendit avait fait plus de 16%.
Près de 17%, effectivement. Oui, oui.
Voilà, près de 17%, voilà. Donc, ce sont des élections assez atypiques. Je vois que M. Mélenchon, dans son discours d'aujourd'hui, continue sur sa ligne, n'a pas l'air de vouloir tendre la main à ce qui reste du Parti Socialiste.
Alors, justement, je me permets de vous couper la parole, M. Jean-Barge. On va écouter justement Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, cet après-midi, à Vincennes.
Je suis stupéfait de voir que c'est à moi qu'on me demande de s'en aller, sans que je sache de quoi d'ailleurs je dois m'en aller. Je suis président de groupe à l'Assemblée nationale, je suis d'ailleurs le seul élu par les autres dans le mouvement des Insoumis. Je le signale au passage, parce que pour un dictateur, c'est quand même curieux. Je suis consterné par le nombrilisme de certaines critiques. Nous sommes dans une arène, pas dans un concours. Pas dans un examen.
Alors, Denis Jean-Barre, avec des personnalités, des personnages comme M. Mélenchon, est-ce qu'on peut aller vers justement une mise en partage, une rénovation du carburant politique des gauches françaises?
À travers la mise en scène de sa prise de parole aujourd'hui, avec parfois, vous l'avez noté sans doute, des accents gaulliens.
Ah oui, c'est flagrant. C'est flagrant.
Le général de Gaulle, c'était flagrant. On a du mal à imaginer qu'il puisse tendre la main aussi bien aux écologistes, au Parti communiste, qu'à Olivier Faure, au Parti socialiste. Et c'est bien ça. La difficulté, c'est l'archipélisation de la gauche, plus que au fond, l'électorat de gauche. Comme je le disais au début, c'est ça, ça n'a pas été assez souligné, me semble-t-il, dans l'analyse du scrutin européen. Il y a un électorat de gauche qui est toujours là. La question, c'est qu'on ne lui offre pas un projet qui les rassemblerait et un leader qui serait capable de les conduire. Mais il me semble que le projet, eh bien, il doit venir de toutes ces chapelles ou de toutes ces formations qui, tant qu'elles ne se réuniront pas, eh bien, n'obtiendront aucun résultat significatif et aucune chance pour retrouver le chemin du pouvoir.
Bien, merci infiniment. Merci beaucoup, Denis Jean-Barre, d'avoir accepté notre invitation. La canicule s'installe dans le pays avec dès 16h le plan canicule niveau 3 activé par la ville de Paris. Plan vigilance orange en Seine-Saint-Denis, Haute-Seine, Val-de-Marne et Seine-de-Marne. Demain, température très élevée, donc, et temps instable sur le nord-ouest, beau et très chaud. Très chaud d'ailleurs sur le reste du pays.